Nzamba.
Nzambira samirana. Le journal avec Francine Cagnani.
Nous sommes le 7 mars 2023. Bonjour ou bonsoir, c'est l'heure du journal de la radio Nzamba Gate Kakawe. Merci pour votre fidélité à ce rendez-vous. Voici d'abord les titres. Toutes les femmes incarcérées arbitrairement devraient recouvrer leur liberté. C'est en tout cas ce que réclame l'ONG Initiative des droits humains au Burundi, IDHB, à la veille de la journée internationale dédiée aux femmes. La gestion des marchés au centre provincial de Muyinga suscite des grognes chez les consommateurs. Certains produits vivriers sont introuvables au marché central de Muyinga au profit des nouveaux marchés de Tshivali et Mukoni, loin de la ville de Muyinga. Et c'est un plan proposé au gouvernement par l'ONG Parsem pour endiguer la corruption qui mine le pays. Le président de cette ONG, Faustin Dikoubana, a annoncé à cet effet ce mardi un projet de 10 ans. Voilà pour les titres. Bienvenue.
Suivez les émissions de la radio Nzamba en direct sur le www.nzamba.org.
Ouvrons ce journal avec cette brève. Une adolescente de 18 ans est depuis hier lundi détenue au commissariat de police à Kayanza. Elle est originaire de la colline Gisubi, commune Muruta et province Kayanza. Cette adolescente est poursuivie pour infanticide. Elle a été arrêtée après avoir reconnu qu'elle a jeté un nouveau-né dans une latrine. Le corps sans vie a été extrait de la latrine et enterré avec dignité. Les administratifs de la circonscription invitent les jeunes filles à éviter des grossesses précoces. Inhumation ce mardi d'Aline Inalukundo, 40 jours après son assassinat. Alice, c'est cette femme qui habitait la zone Kanyosha et dont le corps sans vie a été découvert à son domicile à Kanyosha. Son mari, présumé auteur de sa mort, a été mis sous les verrous quelques jours après la mort de son épouse. Il a été autorisé à assister aux funérailles au cimetière de Manda ce mardi. On fait point avec mon fils Niyongere.
L'inhumation d'Aline Inalukundo a eu lieu au cimetière de Manda ce mardi sur décision de la justice, un mois et demi après son assassinat. Claude Darakaza, son mari, qui est également accusé d'avoir tué sa femme, a été autorisé de sortir de la prison pour assister à l'enterrement de sa femme. Les proches d'Aline Inalukundo sont dissatisfaits de son inhumation et demandent la poursuite des enquêtes judiciaires en toute indépendance.
L'inhumation d'Aline Inalukundo s'est bien passée. Nous disons merci à tous ceux qui ont aidé pour que demain justice soit faite en toute indépendance. Le mari est venu, mais il a été hué par la foule comme étant l'assassin et certains ne voulaient pas de sa présence. Nous sommes satisfaits de ce pas et nous espérons pour la suite que la justice agira en toute indépendance.
Son inhumation est intervenue après un long bras de fer entre les deux belles familles, un bras de fer qui prend naissance depuis le jour de l'assassinat d'Aline Inalukundo. La famille de la mariée accuse le mari d'être le principal suspect et réclame justice. Le mari, Claude Alakaza, est en prison sur l'ordre des procureurs après l'analyse de l'expertise médicale faite au lendemain des faits. Mais la famille du mari a toujours remis en cause cette expertise en voulant faire libérer Claude Alakaza et étouffer dans l'œuf le dossier d'assassin présumé de sa femme. Les proches du mari étaient aidés par certaines autorités issues du parti CNDD-FDD selon des sources proches du dossier. La famille de Claude Alakaza s'était opposée à l'enterrement, mais elle s'est finalement résignée à se joindre à la belle famille ce lundi soir pour discuter des préparatifs des funérailles d'Aline Inalukundo qui ont eu lieu dans l'avant-midi de ce mardi.
Et puis cet appel à la libération de toutes les femmes incarcérées arbitrairement au Burundi, il est lancé par l'Initiative des droits humains au Burundi à l'occasion de la journée internationale dédiée à la femme, une journée célébrée le 8 mars de chaque année. Karina Tessakian, chercheuse à l'ONG IDHB, demande au gouvernement de libérer entre autres les 5 défenseurs des droits de l'homme récemment incarcérés et la journaliste Floriane Irangabie. On écoute Karina Tessakian.
À l'occasion de la Journée internationale des femmes, je voudrais rappeler le sort des femmes burundaises victimes d'emprisonnement arbitraire. En particulier, Floriane Irangabié, une journaliste condamnée à 10 ans d'emprisonnement simplement pour avoir exprimé ses opinions et qui vient déjà de passer 6 mois en prison. Je voudrais également attirer l'attention à l'arrestation le mois dernier de 5 défenseurs des droits humains, dont 2 représentantes de l'Association des femmes juristes au Burundi et 3 représentants de l'Association pour la paix et la promotion des droits de l'homme. La Chambre de conseil vient de confirmer leur maintien en détention. Nous sommes très préoccupés par ces arrestations et par les accusations gratuites contre ces personnes. Ces 5 activistes seraient accusés d'atteinte à la sûreté de l'État, de rébellion et d'atteinte au bon fonctionnement de l'économisme. Il semble plutôt que les autorités leur reprochent de recevoir des fonds de l'étranger, ce qui n'est pas illégal et ne constitue pas une infraction pénale. Le message est donc très clair. Le gouvernement refuse de tolérer toute critique et bloque même des associations ou les activités d'associations qui œuvrent en faveur de la population burundaise. Les cas que je viens de citer sont des cas emblématiques, mais ce ne sont pas les seuls. Il y a d'autres cas de femmes burundaises qui ont été emprisonnées pour des motifs politiques et qui restent enfermées dans des conditions déplorables. Certaines, par exemple des membres du parti d'opposition, le CNL, ont été torturées et n'ont pas pu avoir accès aux soins médicaux dont elles ont besoin. Elles ont presque été oubliées. Ces arrestations et ces emprisonnements sont en contradiction directe avec tout ce que le président a promis. Liberté d'expression, indépendance du système judiciaire. Malheureusement, il est devenu très difficile de croire à ces promesses tant que le gouvernement continue d'utiliser la justice comme outil de répression politique. Le président pourrait faire un geste important aujourd'hui en ordonnant la libération immédiate de toutes ces femmes.
C'était Karina Tesekian, chercheuse à l'IDHB. Suite de ce journal, la commission Vérité et Réconciliation entame dès ce mois de mars la phase des audiences publiques sur les violences commises entre 1972 et 1973 dans le pays, annonce faite par Pierre Claverne d'Italier, président de cette commission ce mardi lors d'un café de presse. Le président de cette commission précise que la CVR organise ses audiences dans le but de continuer à réconcilier la population. L'audience pilote aura lieu dans la province de Luigi, précise encore Pierre Claver d'Italie.
Ces audiences sont de 3 catégories, à savoir les audiences publiques, les audiences à huis clos et les audiences thématiques. L'audience pilote sera organisée dans la province de Ruyigi, dans une commune à convenir avec l'autorité territoriale. Selon les investigations menées par la CVR, la province de Ruyigi compte un grand nombre de témoins qui ont accepté de parler à visage découvert. Ces audiences sont prévues par la loi régissant la CVR. Elles ont été souhaitées par plusieurs personnes de toutes les origines et catégories. Ces Burundais ont désiré dire publiquement ce qu'ils ont vécu lors des grandes violations commises dans le passé. Cependant, il convient de préciser que les éléments de preuve recueillis par la commission ne peuvent pas être utilisés contre les victimes, les témoins, les présumés auteurs et les autres déposants. Les audiences publiques permettront aux intervenants, c'est-à-dire les victimes, les auteurs, les présumés auteurs des crimes et le public, de contribuer davantage à la découverte de la vérité, d'éclairer le passé douloureux du Burundi, parce que nous avons réellement vécu un passé douloureux, mais nous le faisons et nous le ferons dans le but global d'une réconciliation effective entre tous les Burundais.
C'était le président de la CVR.
Inzamba.
On vient à cette grogne des consommateurs au chef-lieu de la province Muyinga. C'est suite à l'interdiction de vendre divers produits vivriers au marché de la ville de Muyinga au profit des nouveaux marchés de Tshibali et Mukoni. La mesure a été prise par l'administrateur communal Amédée Misago. Mais ses habitants du centre urbain de Muyinga demandent à cette autorité communale d'aménager à l'intérieur du marché central en espace pour les 10 produits et d'être avec Pierre Garungu.
Il y a plus d'un mois que l'administrateur de la commune Muyinga, Amédée Misago, a pris une mesure interdisant la vente des vivres frais comme la banane légume, la patate douce, le manioc doux ou encore la colocase au marché central de Muyinga. Ces produits ainsi que leurs vendeurs ont été délocalisés dans les nouveaux marchés périphériques de Chivari et Mukoni. Mais ces deux marchés étant situés à près de 2 km de la ville et donc des consommateurs, des conséquences n'ont pas tardé à se manifester. Le coût du déplacement pour atteindre ces nouveaux marchés est estimé à 2000 francs burundais. Ces produits vivriers sont très rares dans ces deux nouveaux marchés trop peu fréquentés. Ensuite, le prix des 10 denrées alimentaires augmente au jour le jour. Un petit régime de bananes qui valait entre 3000 et 4000 francs avant cette décision vaut aujourd'hui 8000 francs. Un régime moyen qui s'achetait à 10 000 francs s'acquiert présentement à 30 000 francs, comme en témoignent certains consommateurs. Un panier de patates douces qui s'achetait à 2 500 francs coûte maintenant 10 000 francs. Les consommateurs demandent à l'administrateur communal de ne pas continuer à empirer les conditions de vie de la population alors que la situation économique des ménages était déjà volatile. Ces familles lésées demandent à l'administrateur de prévoir au sein du marché central de Muyinga un espace suffisant afin d'autoriser de commercialiser les vivres frais pour le bien de ses gouvernés. Suite à ces lamentations de la population, la radio Inzamba à Katekakawe a essayé de joindre par téléphone Amédée Misago, administrateur de la commune Muyinga, pour s'exprimer mais sur ces lamentations des populations. Son téléphone sonnait, mais il ne décrochait pas.
Merci Pierre Garungu. Les employés de la microfinance Tupouzé réclament la totalité de leur salaire, qui avait été diminué de 23% en 2017 pour des raisons de déficit financier. Ils indiquent que la direction a dépassé les délais qu'elle avait donnés pour les relever. La direction confirme qu'elle est au courant de cet état de fait et qu'elle fait de son mieux pour répondre aux doléances de ses employés en fonction de l'évolution de la situation financière. Les détails avec Changé Havarugira.
Les employés de la microfinance de Kouzé confirment que la situation financière s'est améliorée depuis la décision prise en 2017 de réduire les salaires jusqu'à 23,5%. Ils estiment que la direction pourrait établir les salaires d'avant cette décision, mais qu'elle ne se presse pas de mettre en application la convention qu'il a lue au personnel.
En 2017, au mois de mars, le salaire de tous les employés de Dukuzé a été réduit autour de 23,5% suite à la santé financière de l'institution qui n'était pas bonne. Nous avons signé un avenant au contrat de 9 mois et l'employé nous a promis qu'au mois de décembre, c'est-à-dire après 9 mois, les employés reviendront sur les contrats initiaux. Mais dès lors, jusqu'aujourd'hui, les conventions n'ont pas été respectées alors que l'institution se porte bien.
Certains signes montrent que la situation financière de Microfinance Dukuzé s'est améliorée selon certains membres du personnel.
Ce qui nous montre que la santé financière de l'institution est améliorée par rapport à la situation d'avant, nous le constatons pour plusieurs raisons. D'abord, à la fin de l'année, nos dirigeants nous ont félicités via le groupe WhatsApp du personnel de Dukuzé Microfinance que la situation financière est améliorée. Et ils nous ont donné 13e mois, une fois de l'histoire depuis que Dukuzé existe.
La direction de la microfinance Dukuzé affirme qu'elle est à l'œuvre pour résoudre cette question des salaires qui a été causée par une crise financière. Elle a fait savoir que l'entreprise est en train de reprendre progressivement et qu'une réunion est prévue pour analyser cette question financière. Et elle précise également que les décisions prises seront basées sur les résultats et que l'entreprise répondra pleinement aux préoccupations du personnel au fur et à mesure.
Et pour refermer ce journal, l'ONG Parsem Parole et Action pour le réveil des consciences et l'évolution des mentalités a annoncé ce mardi son projet de 10 ans sur la lutte contre la corruption qui mine le pays. Faustin Likumana, président de la Parsem, fait savoir que le programme vise à montrer les différents axes que le gouvernement devrait emprunter pour une lutte efficace contre ce fléau. On écoute Faustin Likumana.
Naturellement, même fois quand on rentre dans ce programme, on dit quelles sont les stratégies pour que vous aboutissez aux résultats. Je dois dire que le premier gage, c'est le renforcement des connaissances, des compétences citoyennes pour les médias et les citoyens, qu'ils soient informés pour que cette coalition s'élargisse, rassemble beaucoup plus d'éléments. Les combattants, il faut multiplier les combattants. C'est une guerre en combat contre la corruption, contre la pauvreté, il faut élargir les combattants. C'est vous les médias, les citoyens, mais il faut que vous soyez informés au moins. Tu ne veux pas embarquer quelqu'un dans une guerre sans avoir même donné un minimum d'informations, d'informations. Donc c'est cette étape. Mais il faut élargir l'écho et il faut mobiliser beaucoup. Et encore une fois, il faut alors convaincre. Convaincre les plus hautes autorités. Ce n'est pas les convaincre parce qu'ils sont déjà acquis à la cause. Maintenant, c'est la lutte contre la corruption, les détourner. Jusqu'à ce qu'il dit qu'il va changer les billets en circulation. Vous voyez là où il en arrive. Pour couper peut-être court à ce mouvement. Donc, pour beaucoup de stratégies sont évoquées, mais nous voulons proposer des stratégies quand même cohérentes qui ont fait preuve de résultats même ailleurs. Je parlais des marchés publics. Les marchés publics, c'est le cœur de la bonne gestion budgétaire. Si on analyse l'impact négatif de la mauvaise part des marchés publics, voyez par la demande. Voyez les passeports. Jusqu'à ce que même le Premier ministre fasse son mea culpa devant le Parlement. Il faut accepter notre responsabilité de mauvaise gestion. Il faut accepter le mal pour le guérir. Les choses commencent à bouger.
C'était Faustin Dikoumana, directeur national de l'ONG Persem. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Passez une bonne soirée. Au revoir et à la prochaine.